Amen. Bonsoir à vous tous, frères et sœurs. Enchanté d'être devant vous ce soir pour commencer cette série sur le mariage. Quelque chose d'indispensable, comme l'a dit Johnny tout à l'heure, comprendre les fondements du mariage, comprendre ce que Dieu a créé pour chacun d'entre nous, pour que nous soyons épanouis dans ce mariage. Amen. Ma prière, c'est qu'à travers ces enseignements, ce ne soit pas seulement des enseignements, mais que le Saint-Esprit vous saisisse afin de changer les cœurs. Afin que vous puissiez là vraiment rentrer dans ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Et c'est ma prière pour ce soir. Amen. Le mariage, il a été créé par Dieu lui-même. Dans Genèse 2, 24, c'est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Quand on a dit ça, on a l'impression peut-être qu'on n'a pas dit grand-chose, et pourtant c'est fondamental de réaliser que c'est Dieu qui a créé le mariage. C'est comme un inventeur, si un inventeur crée quelque chose, il a un mode d'emploi, il a une façon de faire, et si vous le faites à votre manière, vous risquez d'avoir des problèmes pour le réaliser. C'est un peu comme ça avec Dieu. Dieu a créé le mariage, il a donné sa parole, la parole de Dieu, pour rentrer dans ce qu'il a prévu, dans ce qu'il a créé. Et c'est à nous de nous adapter à ce que Dieu a fait. Ce n'est pas à nous d'imaginer le mariage comme nous, on le voudrait. C'est à nous de dire, Seigneur, me voici pour t'obéir et pour rentrer dans ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous. Amen. Nous avons un constat unanime, le mariage, il est mis à mal. On le voit par la banalisation du divorce, et on a passé la barre des 50%, c'est-à-dire que maintenant il y a plus d'un divorce sur deux qui conduit, d'un mariage sur deux, pardon, qui conduit au divorce. Et on a vu un petit peu quelques points qui favorisent un petit peu cette mise à mal du mariage, l'activisme débordant de nos vies, nous sommes de plus en plus pris dans nos emplois du temps. Et c'est comme un tourbillon de la vie. On ne voit même plus les journées passer, on ne voit même plus les semaines passer, on ne voit même plus les années passer. Tellement nous sommes pris dans un tourbillon. Ce tourbillon, ben, c'est évidemment le travail qui prend une grande majorité de notre temps. Il y a aussi le sport, les activités, les enfants. Et tout ça nous conduit à avoir de moins en moins de temps pour le couple. Ensuite, on a remarqué aussi que l'individualisme ambiant nous incite à nous investir de moins en moins dans notre mariage. La parole de Dieu dit que dans les derniers temps, l'homme sera de plus en plus égoïste. Et donc, cette ambiance que nous avons autour de nous, ben, il faut faire attention parce que nous pouvons être contaminés par cette ambiance-là. Alfred Toffler, c'est un chrétien, un sociologue chrétien, qui a dit ceci: à notre époque, tout change avec une accélération tellement croissante qu'il devient de plus en plus difficile d'établir une relation profonde et durable. Aujourd'hui, si vous discutez avec la nouvelle génération, avec les jeunes, pour beaucoup, ça semble pratiquement impensable de passer toute une vie avec la même personne. Ils se voient très bien pour un temps avec une personne, et après, c'est tout à fait normal de changer. On devient dans cette mentalité jetable. Je me sers de toi, et quand j'estime que tu m'as donné ce que tu avais à me donner, eh ben je te jette. Les gens ont la mentalité du jetable. Non seulement ils ont des produits jetables, mais ils se font des amis jetables. Et cette mentalité a produit des mariages jetables. Ces influences se traduisent par le développement du concubinage et du divorce. Le concubinage, on pourrait dire, c'est le refus de s'engager, la facilité de changer de partenaire. On essaye. Et puis si on voit que ça ne va pas bien, ça ne va pas comme je veux moi, ben écoute, on arrête là. Et le divorce, c'est l'influence du jetable, la recherche de la satisfaction de soi et le manque d'investissement de soi. On est plus dans cette mentalité égoïste où dès que ça devient un peu dur, eh ben on a envie de divorcer. Et le divorce, c'est quelque chose de banal. On le dit comme on dit on se marie, on divorce, c'est pas grave. À cause de l'influence de notre société, conserver et bonifier son mariage aujourd'hui est un défi à relever chaque jour. conserver et bonifier. On va le voir tout au long de ces enseignements, que le mariage, plus on avance dans le mariage en suivant ce que Dieu a prévu pour nous, plus le mariage se bonifie. À l'inverse, on peut rester dans un mariage mais qui ne se bonifie pas. Et on verra tout à l'heure que ça peut nous entraîner dans un autre mode de fonctionnement. Le manque ou l'inexistence de préparation au mariage a pour conséquence de voir rentrer les jeunes gens dans le mariage sans savoir vraiment ce qui les attend. C'est un peu comme si on donnait une voiture à quelqu'un et on lui demandait de la conduire alors qu'il n'a même pas le permis. On trouverait ça complètement fou. Et pourtant, c'est ce qui se passe dans le mariage. Les jeunes rentrent dans le mariage, qu'est-ce qu'ils ont comme référence? Le mariage de papa, le mariage de maman. Et ils ne sont pas préparés au mariage biblique, le mariage comme Dieu l'a prévu. Et souvent, ça part sur des mauvais rails. Donc bien souvent, le couple part sur des mauvaises bases qui vont impacter leur mariage pendant de très nombreuses années, si ce n'est toute la durée de leur mariage. Parce qu'il va y avoir, dès le départ, si on est sur des mauvaises bases, on va avoir des complications comme des frustrations, comme des attentes qui ne sont pas réalistes, et ça va entraîner des blessures très tôt dans le mariage. Et si ces blessures-là ne sont pas soignées, eh ben c'est un mariage qui peut durer, mais ce n'est pas le mariage comme Dieu l'a voulu. La méconnaissance du fonctionnement du mariage conduit bien souvent celui-ci, au bout de quelques années, à une forme de cohabitation. On revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai dit que le mariage, il est fait pour se bonifier, de rester amoureux, que les années passant, c'est du plus. À l'inverse, si on n'y fait pas gaffe, si on n'y fait pas attention, ce n'est pas une bonification qu'on va avoir, mais c'est plutôt une entente cordiale, où chacun va trouver sa place, mais on vivra plus dans un mode de cohabitation. On ne divorce pas, parce qu'on a des intérêts en commun, on a des habitudes, on a des enfants, des biens matériels. Mais ce n'est plus un mariage, c'est une cohabitation. Et ça, c'est parce que Dieu a voulu. Et pour cela, il faut vraiment rentrer dans la parole de Dieu. Dans le psaume 127, il est écrit, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Le mariage ne peut se faire qu'avec l'assistance de Dieu et sous la gouverne de Dieu. À travers la mise en place de ces enseignements, nous allons, par la grâce de Dieu, saisir les clés qui vont nous permettre, un, de protéger notre mariage, de le garder, mais aussi de le faire fructifier, ou même pour certains, de faire renaître leur mariage. Un mariage, il est jamais perdu. Pour ceux qui sont en Dieu, même si tu es en grande difficulté dans ton mariage, ton mariage n'est jamais condamné. Parce que Dieu, c'est le Dieu du mariage, c'est le Dieu de la famille, et il ne dit jamais son dernier mot. Dieu est le Dieu de la résurrection. Et si toi et ton conjoint voulez vraiment sauver votre mariage, évidemment c'est la condition première. Il faut que les deux veuillent s'en sortir et veulent continuer à vivre ensemble. Alors le miracle est pour vous. Et ce mois de la famille qu'on va partager, ce mois du mariage, il peut changer votre vie. Amen. Regardons ensemble le scénario classique qui se répète pratiquement dans la grande majorité des mariages et qui explique en grande partie pourquoi le mariage part sur des mauvais rails. On va voir les trois scénarios qui nous guident vers un petit peu ce que tout le monde plus ou moins a traversé. Quand deux êtres se rencontrent, ce sont deux histoires qui se rencontrent. Et ces deux vies avec chacun ses bagages. Ces bagages, ils sont souvent symbolisés par nos blessures de la vie, ce que l'on a déjà traversé dans cette vie où nous avons grandi. À cause du péché sur cette terre, personne ne peut échapper à la dure réalité de cette vie. Et les blessures, qu'on résume à cinq blessures de la vie, pour résumer, qui sont la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, aucun être humain n'échappe à ce traitement de défaveur. C'est la loi sur cette terre à cause de la méchanceté des êtres humains, à cause des cœurs endurcis, à cause du péché. Ces blessures ont largement influencé la construction de notre personnalité et ont, d'une certaine manière, déterminé nos comportements dans nos relations. Et ces manières de fonctionner nous ont sans doute permis de survivre dans ce monde déchu, compliqué, mais sans pour autant régler nos problèmes de fond. Manque d'amour, profonde insécurité au fond de nous, cachée souvent par un fort ego. Mauvaise estime de soi, difficulté à faire confiance à l'autre. Un besoin d'amour qui va progressivement étouffer l'autre. Une jalousie maladive, de la colère, de l'irritabilité. Un manque de communication qui entraîne des difficultés à créer une intimité dès qu'on se retrouve en couple. Et la liste peut encore s'allonger. Tout cela n'est pas visible au départ. Et cela peut prendre un certain temps avant de découvrir tous les bagages de l'autre. Du moins, jusqu'au jour où nous vivons à deux sous le même toit, 24 heures sous 24. C'est violent. On ne voit pas les difficultés de l'autre, on ne voit pas ce qu'il y a comme dysfonctionnement, comme défaut, et tout d'un coup, on se retrouve ensemble. Et là, plus on va passer de temps ensemble, ben plus on va voir petit à petit les défauts de l'autre, et l'autre va voir mes défauts. Et là, on se demande si la personne que nous avons épousée est bien celle qui est à côté de nous. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé entre-temps ? Est-ce qu'il n'y a pas eu un échange entre-temps ? C'est en vivant à deux que nos dysfonctionnements, les conséquences de nos blessures, vont apparaître au grand jour. Et bien souvent, nous n'avons pas vu toutes ces choses avant le mariage, ou alors, plus subtilement, on n'a pas voulu les regarder, on n'a pas voulu les voir. Pourquoi nous n'avons pas voulu les voir ? Parce que nous avons tellement mis d'espoir dans l'autre qu'une partie de nous, ou la totalité de notre être, a préféré ne pas voir certaines réalités. C'est ce qu'on appelle le déni. Les autres vont le voir, les autres vont nous avertir, les autres vont dire « attention, il y a peut-être un petit souci de ce côté-là ». Mais nous, on va minimiser tout ça, parce qu'on a tellement envie de marier la belle ou le beau. Vous connaissez cet adage qui reflète ce que je viens de dire, l'amour rend aveugle, d'accord ? Mais le mariage rend la vue. Il y a une partie de nous qui ne voulons pas voir la réalité, mais cette réalité-là, elle va nous rattraper. Parce qu'à vivre 24 heures sur 24, 365 jours ensemble, je vous assure que tout ce qui était caché va monter à la surface. Cette réalité conduit à vivre le début des mariages en trois phases. La première phase qu'on va voir, qui peut aller de la rencontre aux fréquentations et le plus souvent au début du mariage. On appelle cette phase-là, c'est la phase qu'on vient de voir, l'amour en aveugle. L'amour aussi nous provoque des émotions extraordinaires qu'on appelle Eros. La phase d'exaltation ou la phase d'enchantement. Elle n'est pas très réaliste, mais c'est ce qu'on appelle le coup de foudre. Et donc cette première phase, l'enchantement, elle pourrait se traduire comme ça. Il n'y a que des qualités. J'ai beau regarder, il n'y a pas de défaut. Oh, elle est trop belle, c'est un ange. Seigneur, merci de l'avoir mis sur ma route. Bien souvent, elle débute avant le mariage et se poursuit après. Bien qu'il soit impossible de prévoir à quel moment elle s'estompera, je vous l'assure, c'est une garantie, elle finira par perdre de son intensité. Voici le genre d'expression qui est utilisée et qui caractérise cette femme. Ah, c'est l'homme que je cherchais. Oh, c'est la femme de mes rêves. Mais il est parfait. J'ai beau chercher des défauts, elle n'en a pas. Toutes les personnes qui sont mariées depuis longtemps sourient en entendant ces formules. Parce qu'elles y ont cru elles-mêmes. En réalité, cette phase, elle révèle notre côté égocentrique et égoïste. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on voit chez la personne tout ce qui nous intéresse. Tout ce qu'on voit chez la personne, c'est tout ce que j'ai rêvé, c'est là, devant moi. Tout ce qu'elle pourrait nous apporter. Tout comme la phase d'exaltation, la deuxième phase qui va intervenir quelque temps après peut survenir avant le mariage. lors des fréquentations. Dans ce cas, il arrive que le mariage n'ait finalement pas lieu et que les fréquentations ou les fiançailles se terminent tout simplement. Ce que j'aimerais vous rappeler, c'est que les fiançailles, le temps hein, où on apprend à se connaître, ben ce temps-là, on ne sauve pas des fréquentations, on ne sauve pas des fiançailles. Sans doute qu'il y a des choses qui vont se révéler, et si ça ne va pas, ça ne va pas. Mais il ne faut pas faire comme si ça allait, parce qu'on veut aller au bout. Beaucoup de gens ont eu des signaux pendant les fréquentations, vous savez, des alarmes. Mais ils ne les ont pas vus. Et après, quand ils se sont retrouvés dans le mariage, ben le signal n'avait pas changé, il était toujours là, lorsqu'il était permanent. La deuxième phase, c'est la phase de la déception. Ou alors on l'appelle aussi la phase de désenchantement. On ne peut pas prévoir quand elle se produira, mais elle va arriver. Le prince charmant ne sera peut-être plus tout à fait le prince charmant. Le désenchantement, ça peut se traduire comme ça. Tu n'as que des défauts. Seigneur, mais qui tu as mis à mes côtés? Le réveil est douloureux. Bien souvent, elle arrive après quelques mois de vie à deux. Parfois, elle se manifeste un peu plus tard, avec l'accumulation des déceptions et des frustrations. C'est lors de cette phase que la plupart des mariages s'effondrent. Les époux manquent de persévérance et ils abandonnent. Même si cette phase est l'inverse de la première, elle est tout aussi irréaliste. On ne voit maintenant que les mauvais côtés et les défauts de l'autre. Toutes les qualités ont disparu, d'un seul coup. Il n'y a plus que des défauts. Et là, on va avoir la frustration, on va avoir de l'agressivité, de la colère, des douleurs, de la souffrance, des illusions, un sentiment de trahison sont les caractéristiques de cette phase. Les propos qu'on va entendre à ce moment-là seront plutôt du genre « J'aurais jamais pensé qu'il était aussi... » Comment ai-je fait pour ne pas avoir tous ces défauts avant? Mais quelle grave erreur j'ai fait en l'épousant! Mais Dieu, mais pourquoi tu ne m'as pas montré ça avant? Tout d'un coup, c'est la faute de Dieu. La réalité de cette phase met en évidence nos attentes irréalistes vis-à-vis de notre conjoint. Cette phase demeure tout aussi égocentrique puisque nous ne voyons que ce que l'autre n'est plus pour nous, comme si littéralement nous aurions perdu au change. On a l'impression qu'on a été trompé sur la marchandise. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de retour à l'envoyeur. Il n'y a pas de message. Il faut bien réfléchir avant, parce qu'il n'y a pas de retour. Nous arrivons maintenant à la troisième phase. Nous sommes alors à un tournant crucial de notre mariage. Beaucoup de mariages échouent et s'échouent à ce stade-là. En fait, c'est comme si que vous avez une première phase hein, que l'on qualifie de Eros, l'amour Eros, qui vient de érotique, qui a donné érotique, et c'est un amour coup de foudre. C'est l'amour où on n'est plus tout à fait dans la réalité. Et là, il faut faire attention parce que plus on monte, plus la chute peut être violente. Donc, première phase, on n'est pas tout à fait dans la réalité. On le voit plus beau qu'il n'est, ou qu'elle n'est. Et là, on a une deuxième phase où là, on se rend compte de qui est la personne. Et par rapport à tout ce qu'on avait misé sur elle, il y a une grande déception. Et là, c'est là que c'est crucial, c'est là que c'est délicat. Parce que là, beaucoup vont arrêter. Et comme on divorce facilement, comme on se sépare facilement, eh bien, c'est de plus en plus critique à ce niveau-là. Et là, on va avoir une troisième phase qu'on appelle la phase de maturité. Où là, on va être un peu plus raisonnable. On va dire, OK, on a laissé redescendre le feu, l'éros, et on commence à voir les choses un peu plus calmement. Cette troisième phase, la maturité, c'est une phase beaucoup plus équilibrée et assurément moins fantaisiste que les deux premières. La phase de la maturité pourrait donner cela. Attention, maintenant je te connais, toi. Et moi aussi je te connais. Commence à se connaître, on commence à dire que l'autre, finalement, il a ses qualités et qu'il a ses défauts. Comme moi, j'ai mes qualités et mes défauts. Chacun des conjoints réalise maintenant que l'un et l'autre ont des défauts, mais aussi des qualités. C'est la maturité douloureusement acquise qui leur fait voir l'autre tel qu'il est réellement et non pas tel qu'il l'aurait voulu. D'un coup, on a retrouvé la vue et maintenant on vit avec la réalité. Fini les scénarios à l'eau de rose, c'est la fin du prince charmant sur son beau cheval blanc qui vient prendre sa belle princesse. On arrête les films d'Hollywood, on arrête de lire les bouquins à l'eau de rose, on est dans la réalité. Que nous révèlent ces trois phases? Pour cela, il faut se servir de la fenêtre de Johari. Celle-ci est abondamment utilisée dans la sphère de la communication afin de mieux comprendre la nature humaine. Et pour nous, chrétiens, vous allez voir, il y a des carreaux que nous, on peut bien interpréter. Vous voyez, la fenêtre de Johari, elle a quatre carreaux et ça représente l'être humain. Vous voyez en haut, c'est ce qui est connu de moi. C'est un carreau ouvert. C'est connu de moi et c'est connu des autres. C'est pour ça qu'on dit que c'est ouvert, parce qu'il n'y a rien de caché. Okay. Après, on a une autre case, c'est la case aveugle. Et c'est ce qui s'est passé tout à l'heure. D'accord ? C'est-à-dire que moi, je ne vois pas ce que j'ai comme problème. On me dit que j'ai des problèmes, mais moi, je ne les vois pas. Donc pour moi, non, il n'y a pas de problème. Mais si, tu as un problème, sauf que tu ne le vois pas. Maintenant, il y a une autre case, plus dangereuse. Ça, c'est ce qui est connu de moi, mais que vous ne connaissez pas. Et que pour connaître cette phase-là, ce carreau-là, il faut vivre avec moi. Et ça, c'est les conséquences du péché. Les conséquences du péché, tout le monde a été touché par le péché, et tout le monde a hérité d'une bonne dose de dysfonctionnement. Même si on n'a pas les mêmes, mais tout le monde a des problèmes, à travers ses blessures, à travers ce qu'il a connu dans sa vie. Tout ça a entraîné des comportements, parce qu'il a bien fallu survivre, malgré tout ça, et ces comportements-là, eh ben, on va les retrouver dans le couple. Et ça ne va pas être forcément ce à quoi on s'attendait. Et enfin, les conséquences du péché, c'est aussi ce qu'on va découvrir dans l'avenir. Et là, on aura besoin vraiment de Dieu dans sa vie. Il y a des choses qui vont apparaître au fur et à mesure de notre vie, qui sont aussi bien inconnues de moi qu'inconnues des autres. Donc voilà un petit peu comment une personne... Elle se présente. Vous voyez comment on a beaucoup à apprendre de l'autre. Et forcément, à cause du péché, la Bible, elle ne cache rien là-dessus. Elle dit que le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout. Donc, on va falloir découvrir aussi la partie cachée de l'autre et la partie, on va dire, méchante de l'autre. Donc, c'est pour ça que ça entraîne des déceptions. C'est pour ça que ça entraîne des frustrations. Parce que, tant qu'on n'était pas ensemble et qu'on était dans la période séduction, eh ben, l'autre se mettait au mieux. S'il n'avait pas l'habitude d'offrir des fleurs, ben là, il offrait des fleurs. Il se rendait disponible. Il était capable de parler au téléphone pendant 2 heures. Et ce n'était pas sa nature. Mais il était dans un mode séduction. Et si toi, tu ne sais pas tout ça, ben, tu prends ça pour argent comptant. Et après, dans le couple, tu te dis, mais il n'était pas comme ça. Avant, quand on s'est connu, il n'était pas comme ça. Eh oui. Mais maintenant, tu vois la réalité. Cet enseignement met en évidence l'importance de faire durer les fréquentations. On appelle ce phénomène étirer les fréquentations. Toujours un petit peu affolé quand je vois des gens, même chrétiens, se marier après seulement quelques semaines. Waouh. J'espère qu'ils sont costauds, parce que toute la partie qu'on a vue, la fenêtre de Johari, ben, ils vont la découvrir en étant mariés. Donc, c'est pour ça que je dis aussi, il y a un coup de poker. Parce que tu es marié maintenant. Tu vas découvrir des choses que tu n'as pas eu le temps de découvrir avant, pour voir si tu étais en mesure de supporter tout ça, si ça correspond quand même un minimum à tes affinités. Vous comprenez? Autre chose. Avec la fenêtre de Johari, on voit aussi et on le verra qu'on comprend mieux pourquoi on a besoin de Dieu pour vivre ce mariage. Parce qu'en réalité, quand on revient en arrière, s'il veut bien revenir, voilà, En réalité, toute cette partie-là, j'ai besoin de Dieu pour tout ce qui est encore connu de moi, qui a besoin d'être transformé dans mon mariage. Et j'ai besoin de Dieu aussi pour tout ce qui arrivera dans les prochaines années. Une durée d'un an au minimum semble raisonnable. Cela permet de mieux connaître l'autre, aussi de voir ses qualités, mais ses défauts et ses dysfonctionnements. Personne n'est parfait. Vous comprenez ça? Personne n'est parfait. Si on attend de rencontrer la personne parfaite, eh ben, on n'y arrivera pas. Ça n'existe pas. Mais il faut être sage. Malgré le coup de foudre, malgré Eros, il faut être sage. Et il faut se donner un minimum de temps pour voir un petit peu si tout ça, c'est la volonté de Dieu, c'est je suis bien dans le plan de Dieu, c'est pas seulement mon coup de foudre qui me dirige, entre autres mes émotions. Après cette troisième phase, pour ceux qui ont réussi à traverser les deux premières étapes, les époux réalisent que la mise en place d'une relation heureuse et épanouie requiert du réalisme. Ton conjoint n'est pas ton sauveur. Si pendant un moment tu as eu ce coup de foudre et que en lui tu avais tout ce que tu pouvais imaginer, tu es en train de te rendre compte que ton conjoint, ce n'est pas ton sauveur. Il pourra faire des choses pour toi, il pourra t'apporter des choses comme que tu as besoin, mais en aucun cas, il est ton sauveur. Tu avais placé sur ton conjoint des attentes irréalistes. Il va falloir remettre tout cela à sa place. Passer le temps de la surprise, de la déception, de la frustration, il faut remonter la pente pour aller vers cette troisième phase-là. Et là, il y a tout un travail qui doit se faire. Et il vaut mieux être réaliste et de dire « c'est de ma faute ». J'avais mis trop d'espoir sur lui, mais des espoirs irréalistes. Nous sommes que des êtres humains. Et on ne peut pas, il y a des choses qui appartiennent à Dieu, il y a des choses qui appartiennent aux hommes. Mais on ne peut pas demander à des hommes, à des êtres humains, de remplacer Dieu. C'est impossible. Enfin, le mariage va vraiment pouvoir commencer. Il va falloir aux deux conjoints une bonne dose d'énergie, de la bonne volonté, une bonne dose d'abnégation et un engagement de tous les instants. La réussite du mariage va désormais passer par le travail. Et surtout, le travail sur soi. Évidemment, quand on lit ça, on est loin du chevalier qui vient sur son cheval là, délivrer la princesse. On est loin. On va commencer à parler de travail. On va commencer à parler de travail sur soi. On va commencer à parler d'engagement. Une bonne dose d'abnégation. Pour beaucoup, il faut réfléchir au mariage. Il faut se dire, mais est-ce que j'ai vraiment envie de me marier si c'est ça le mariage? Parce que moi, je n'avais pas vu ça comme ça. Et oui, la personne peut dire, non, mais moi, je veux me marier parce que la personne, elle est jolie. Elle correspond à mes standards. Puis moi, j'ai besoin de quelqu'un à la maison quand même. Il faut faire le linge, il faut quand même m'apporter ma petite bière devant le match de foot. Enfin, je ne peux pas tout faire, tout seul. Si c'est ça le mariage pour toi, je te le dis direct, je ne te marie pas. Parce que tu vas être déçu. Le mariage, c'est beaucoup plus que ça. Et on va le voir durant toute cette soirée et les prochaines soirées. Le mariage, c'est avant tout du travail. Alors si tu n'avais pas associé le mariage au travail, ben ce soir tu vas découvrir quelque chose de nouveau. Parce que l'amour, c'est du travail. Dans Matthieu 7,3, il est écrit ceci. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite! Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. L'illustration, c'est surtout pour cette phrase-là. Vous voyez? Le travail sur soi. Pourquoi ça? Parce que quand on est ensemble, c'est tellement facile de voir les défauts de l'autre, de voir tout ce qui ne va pas chez l'autre. C'est tellement facile. Il est devant nous, on le voit. Donc c'est facile de lui dire, mais t'as pas ci, t'as pas ça, t'as. Mais tant qu'on fait ça, on ne travaille pas sur soi.
Et le Seigneur, il ne dit pas que l'autre, lui, il est moins bien que toi. Il dit non, c'est toi qui as un gros problème. Parce que lui, il a une paille, mais toi, tu as une poutre. Ça change tout en conception. Parce que là, c'est plus de regarder l'autre et de lui dire tout ce qui ne va pas. Parce que lui, c'est qu'une petite paille qu'il a dans l'œil. Mais toi, là, ça t'empêche de voir la poutre que tu as dans ton œil. Donc le travail, il se fait sur soi. Et vous allez voir, c'est un changement complètement d'habitude. C'est arrêter à un moment de se critiquer. C'est arrêter à un moment de se dévaloriser. C'est arrêter à un moment de dire tout ce qui ne va pas chez l'autre. Non, ce n'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est de regarder à tout ce qui ne va pas chez toi et de regarder tout ce qui va chez l'autre. Aïe, 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 aïe. Ça fait mal. Je répète pour ceux qui n'ont pas bien compris. Le mariage, c'est regarder à tout ce qui ne va pas chez moi et à regarder tout ce qui va bien chez l'autre. Ça va? Ça va? Ah, c'est pas convaincu encore. Hein? Ça va venir. Ouais. Cela va nécessiter un véritable lâcher-prise. Reconnaître humblement ses défauts et dysfonctionnements et demander à Dieu de nous transformer. Alors on va voir que le mariage, c'est une partie prenante de notre croissance spirituelle. Le mariage, il est à la gloire de Dieu. Les hommes l'ont transformé pour s'arranger avec le mariage et faire en sorte que ça soit agréable pour moi. Mais pas du tout. Le mariage, c'est des efforts, c'est du travail, parce que ça participe à ma croissance spirituelle. Est-ce que je peux entendre un amen?
Amen.
Amen. Enthousiaste. Amen. Dans cette troisième phase, les époux se rendent compte que l'autre a ses défauts, mais moi aussi j'ai les miens. L'autre a aussi des qualités, tout comme moi. L'autre n'est pas parfait et je ne suis pas parfait. Contrairement à ce que nous pourrions croire, cette dernière phase n'est pas une phase de résignation où nous enterrons nos rêves et nos aspirations. C'est une phase où chacun des conjoints est conscient de ses forces, de ses limites, de ses qualités comme de ses défauts. Il n'y a pas de renonciation à vivre quelque chose d'extraordinaire à deux. Au contraire, j'ai parlé tout à l'heure de bonifier le mariage. Et si on fait comme Dieu nous a demandé de faire, on va bonifier notre mariage. Mais si on ne suit pas les directives de Dieu, alors on sera dans un mariage du monde. Et là, on va tomber petit à petit dans une forme de cohabitation. Et on ne vivra pas ce que Dieu a prévu pour nous. Parce que je vous assure que Dieu ne s'est pas trompé en instituant le mariage. Ce n'est pas facile, mais c'est comme la sanctification. Ce n'est pas facile. Mais Dieu nous appelle à grandir spirituellement. Et parce qu'on est des têtus, parce que nous sommes des êtres humains, nous grandissons que dans la difficulté. S'il n'y a pas de difficulté, on ne grandit pas. C'est pas quand je suis au bord de ma piscine et que ma femme m'amène mon petit cocktail, pas de problème à ce moment-là. Mais c'est quand tous les deux on n'est pas d'accord, que tous les deux ça commence à chauffer, c'est là que ça vient nous chercher. C'est là qu'on va devoir grandir en Christ. Amen. C'est une nouvelle phase qui commence où chacun va travailler à se changer lui-même au lieu de s'acharner à vouloir changer l'autre. Beaucoup sont rentrés dans le mariage avec une illusion. L'illusion, c'était de penser pouvoir changer l'autre. Mais tous ceux qui ont un petit peu de bouteille dans le mariage, et ils savent bien que ça ne sert à rien, on ne peut pas changer l'autre. On n'a pas les moyens de changer l'autre. On peut taper la tête dans le mur. C'est tout ce qu'on peut faire. Parce que l'autre ne changera pas pour nous. Alors, s'il est en Dieu, évidemment, il va travailler à sa croissance spirituelle. Mais ce n'est pas nous qui allons l'obliger à changer. Et c'est pour ça que Dieu est sage et Dieu a voulu que les deux soient chrétiens et disciples. Plus que chrétiens, disciples. Parce que c'est ça qui va harmoniser le couple. Mais si on n'a pas Dieu en nous, comment on va changer? Qui est capable de changer notre cœur à part Dieu? Personne. Il n'y a que Dieu qui peut changer un cœur. C'est une phase de croissance et surtout de prise de conscience où chacun s'aperçoit que le bon déroulement et l'issue finale de l'union relève de leur responsabilité commune. Chacun a ses responsabilités. Et j'aime bien cette image du lopin de terre. Vous voyez, ce petit carré de terre que Dieu te donne à ton mariage. Il te dit, voilà, c'est ton petit carré de terre. C'est ton caractère aussi. C'est ton petit carré de terre. Et là, ce lopin de terre, il y aura deux solutions. Ou il va se transformer en mauvaise herbe, parce qu'on n'y travaille pas. Ou alors, chacun va faire en sorte d'enlever les racines, les mauvaises herbes, de planter des fleurs, planter des beaux légumes pour avoir un beau jardin. Et c'est les deux qui participent à ce travail de l'open terre. Mais si on ne fait rien, parce que si on s'attend que tout ça, ça va venir tout seul, je vous assure que le lopin de terre, il va se remplir de mauvaises herbes rapidement. Je n'ai pas le pouvoir de changer l'autre, mais par la grâce de Dieu et avec l'aide du Saint-Esprit, je peux changer. C'est le sens du mariage, comme Dieu l'a voulu. Avec cette façon de voir les choses qu'on va développer, il y a un sens à être ensemble. Il y a un sens du mariage. On grandit ensemble. Et vous allez voir que ça donne du sens à l'amour que l'on a pour l'autre. Si on laisse aller les choses comme ça, vous allez être sûr qu'à un moment, vous allez pouvoir vous poser la question, mais quel est le sens d'être à deux? Pourquoi je suis encore avec toi? On enlève la maison, on enlève les enfants, on enlève tout ça. Mais on est ensemble. Quel sens on donne à notre union? Alors qu'on va voir que quand on est en Christ et quand on suit la volonté de Dieu, il y a toujours du sens à notre mariage. Le sens du mariage. Dieu a créé le mariage afin que l'homme soit dans une relation intime, lui permettant d'exprimer au mieux son amour, de pouvoir recevoir l'amour de l'autre et ainsi de répondre à l'appel de Dieu. Le mariage, c'est la plus petite unité, mais la plus intime aussi, où on peut exprimer son amour et recevoir son amour, l'amour de l'autre. Donc vraiment, vivre ce que Dieu... Pourquoi Dieu a institué le mariage? Parce qu'on a été fait pour aimer et être aimé. Et si le mariage est bien vécu, c'est là où on va ressentir le plus l'amour de l'autre et qu'on va pouvoir exprimer notre amour. On est ensemble tous les jours. Donc l'occasion, elle est largement là pour qu'on puisse exprimer notre amour. Dieu a créé l'homme à son image, aimer et être aimé. Et l'apôtre Jean nous le rappelle dans ses épîtres, Dieu est amour. Mais la question ici, c'est de savoir de quel amour il s'agit. Parce que quelquefois, on fait l'amalgame. Hein, on aime sa femme, on aime son vélo, on aime sa télé, on aime son chien. On aime des choses, tout ça se mélange. Mais il faut comprendre la différence qu'il y a dans l'amour que la Bible utilise avec des termes bien précis. Donc pour bien comprendre, on a besoin de différencier l'amour de Dieu qu'on appelle agapé. C'est un amour qui vient du cœur de Dieu, c'est propre à l'esprit de Dieu. C'est un amour inconditionnel. Et si on n'a pas donné sa vie à Dieu, si on n'a pas reçu cette vie de Dieu en nous, on ne peut pas recevoir agapé. Agapé est réservé à ceux qui ont accepté la vie de Dieu en nous. Et cet amour-là, vous allez voir, il est indispensable pour dépasser, même transcender, les problèmes que l'on peut avoir dans le couple. Et on a l'amour humain, qu'on appelle philia. Et ça, c'est un amour par affinité. C'est un amour qui est propre à l'être humain. C'est ce qu'on a de mieux en nous. On va voir, ça se traduit par la bonté, par ce qu'on a envie de donner aux autres, mais il est limité. Il est limité à cause de notre nature pécheresse. Voici une illustration concrète. Quelle est la différence entre un mariage du monde et un mariage chrétien? La réponse est simple. C'est une petite définition, mais qui nous permet de bien comprendre. Le mariage du monde, la personne dit, qu'est-ce que l'autre pourrait m'apporter? Le mariage chrétien, c'est qu'est-ce que je pourrais apporter à l'autre. Ça va? Vous voyez la différence? Quand on est en mariage chrétien, on est dans la volonté de Dieu pour notre mariage, on pense à ce qu'on peut apporter à l'autre, avant de dire qu'est-ce que je peux prendre chez l'autre, qu'est-ce que... Toujours moi, moi, moi. Nous sommes serviteurs. Nous allons voir à travers quelques définitions de l'amour quel sens Dieu donne au mariage, tel que Dieu l'a conçu. Vous allez voir, on va rentrer dans quelques définitions qui sont profondément bibliques, qui vont nous amener à comprendre comment le mariage s'inscrit dans notre croissance spirituelle. D'abord, Dietrich Bonhoeffer, un pasteur allemand. Il dit, ce n'est pas l'amour qui maintient le mariage, mais davantage le mariage qui soutient l'amour. Alors, quittez pas, restez là, on va voir la suite. Ce ne sont pas nos sentiments amoureux du début de notre rencontre, Eros, qui vont nous permettre de conserver notre mariage dans le temps. Ça va être bon, quelques-uns, pendant quelques temps, le temps de rester amoureux, et que philia suffira. On est beau, on est gentil, tout le monde il est beau, tout le monde il... C'est parfait, ça roule, et ça ne va pas durer. Quand philia va descendre, va baisser d'intensité, c'est là qu'on va se rendre compte que ce n'est pas suffisant. Nos sentiments créent en nous des émotions, mais les émotions ne sont pas fiables. On dit que les émotions, c'est des bons serviteurs, ça nous amène aussi la joie quand on retrouve quelqu'un, on s'exprime, ça nous amène des bonnes choses, mais ce sont des mauvais maîtres. Les émotions ne doivent pas diriger notre vie. Parce que quand ça va mal, si c'est l'émotion qui dirige ma vie, ben le couple, il va être mal. Le mariage va être en danger. Parce que je laisse diriger mon mariage par les émotions. Le danger de se fier à nos émotions, c'est ça. Si nos émotions conduisent notre mariage, celui-ci va ressembler à un bateau pris dans une mer déchaînée ou bien encore à des montagnes russes. Si je suis bien, le mariage va bien. Si je suis mal, le mariage va mal. Et donc, mon mariage, il vit au gré de mes émotions. Mais ce n'est pas possible. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Nos sentiments amoureux du début correspondent à l'amour éros. Ce terme désigne l'amour sensuel. Il est le symbole de la passion physique, mais il ne dure pas. Il laisse place à l'amour philéa, c'est le terme le plus fort pour décrire l'amour humain. Il est décrit par tendresse, chaleur, bonté ou encore intimité. Et on en a besoin. On a besoin de philéa. Mais pour vivre pleinement notre mariage, et surtout quand les tempêtes sont là, alors, il va nous falloir plus que philéa dans notre vie. Nous allons avoir besoin d'une autre source d'amour, et c'est là que l'amour de Dieu est indispensable. Un amour qui vient du cœur de Dieu, mais lui, il n'est pas basé sur des émotions, il est basé sur une décision. Une décision d'aimer qui vient de notre engagement. Amen. C'est un amour puissant, c'est un amour qui dépasse notre nature humaine. Et qui nous fait prendre une décision que, quand ça va mal, j'ai décidé d'aimer. Quand ça va mal, je ne me fie pas à mes émotions. Mais quand ça va mal, je me rappelle mon engagement. J'ai décidé d'aimer. Amen. Et c'est fondamental pour que le couple puisse continuer à bien se développer. C'est complètement fondamental de vivre avec des décisions. Quelquefois, philéa, ça suffira. Je vous donne un exemple. On va au restaurant, au bord de la mer. Je ne pense pas que j'ai besoin d'agapé, là. Je pense que philéa, ça va très bien. Et oui, tout roule. Mais par contre, il se passe quelque chose. Il y a un quiproquo. J'ai blessé ma femme. Elle m'a blessé. Là, philéa ne suffit plus. Et oui, contrariété, colère, irritabilité, frustration. Si je ne vais pas puiser dans agapé, philéa ne suffira pas. Parce que le péché qui est en moi va m'activer. Vous connaissez le petit moteur? Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté le petit moteur qui se met en route tout seul, tout d'un coup. On est irrité. On n'est pas bien. L'autre a fait quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé qu'il allait faire. Ou il n'a pas fait quelque chose qu'il aurait dû faire. Il y a quelque chose qui ne s'est pas manifesté comme je l'aurais voulu. L'amour conditionnel. Et là, le petit moteur se met en route. Et quand le moteur se met en route, faut rapidement trouver la clé. Hein, parce qu'une fois que c'est parti, là, c'est parti. Hein. Et ça peut chauffer. Ça peut chauffer dans la maison. Et on a besoin de dire stop. On a besoin de s'arrêter et de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin d'agapé. Parce que sinon, l'ennemi va faire qu'une bouchée de notre couple. L'amour dans le mariage, c'est plus que des sentiments. C'est un engagement. Le sentiment versus l'engagement, le sentiment pense à soi, tandis que l'engagement pense à l'autre. Le sentiment vise mon bien-être, tandis que l'engagement cherche le bien-être de l'autre. Le sentiment repose sur l'émotion, tandis que l'engagement repose sur une décision. Le sentiment, il sacrifie l'autre pour soi, tandis que l'engagement sacrifie le moi pour l'autre. L'engagement ne veut pas dire que je n'éprouve rien et que je ne ressens plus rien. Il signifie que mon engagement domine sur mes sentiments du moment et que je ne laisse pas faire moi-même. C'est là où on a besoin d'avoir la maîtrise de soi. C'est là qu'on a besoin d'être vraiment en Christ et de dire non, je ne laisserai pas mes émotions prendre le dessus. Je ne vais pas laisser le petit moteur me diriger parce que j'ai décidé d'aimer. Et Dieu nous rend capables. Dieu nous rend capables. Peut-être que ça nécessite de faire une pause, d'aller faire un petit tour dehors, d'aller marcher, peut-être, et de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Pour réussir cela, il y a une victoire à aller chercher sur nous-mêmes, sur notre chair. Cette victoire se trouve dans une communion profonde avec notre Dieu d'amour, agapé. Vous voyez comment que le mariage, tout d'un coup, on voit bien la trajectoire qu'il prend et combien il est lié à notre communion avec Dieu. On serait fou de croire que sans notre communion avec Dieu, on va s'en sortir. C'est impossible. Je vous le dis, c'est impossible. Si on veut être dans un mariage qui se bonifie, dans un mariage qui sera de mieux en mieux, on peut se croire que Phidéa suffit, et puis que, écoute, c'est la vie, c'est pas parfait, le mariage, c'est comme ça, hein, tout le monde vit ça, un jour ça va, un jour ça va pas. Oui, jusqu'au jour où, sans t'en rendre compte, tu vas virer vers une cohabitation. Parce que les blessures ne seront pas guéries. Parce que tu auras rajouté des blessures aux blessures. Et qu'il n'y aura plus cette intimité-là nécessaire pour cette vie de couple. L'amour de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui s'attrape. Mais c'est quelque chose qui se développe, qui se cultive, comme avec principal ingrédient, un abandon et une obéissance à Dieu. On s'abandonne à Dieu, on obéit à Dieu. Et là, on va vivre quelque chose d'extraordinaire dans le mariage. Mais si on n'est pas prêt à faire ça, alors on aura le mariage qu'on mérite. Si on veut le mariage comme Dieu l'a prévu, et un mariage que heureux, parce que ça existe, les mariages heureux, un vrai mariage, heureux. Alors il nous faut obéir à la voix de Dieu et nous abandonner complètement. Cet amour est impossible sans la coopération du Saint-Esprit, c'est-à-dire de son fruit. C'est un amour qui implique tout notre être entier, esprit, cœur, pensée et surtout volonté. La volonté de dire non, moi j'ai décidé d'aimer et ce n'est pas les blessures, ce n'est pas l'ennemi, ce n'est pas qui que ce soit qui va décider pour moi. J'ai décidé. La présence de cet amour agapé dans chacun des époux n'est pas une option. Elle est indispensable à l'épanouissement d'un mariage. Deux êtres aussi différents ont besoin de cet amour inconditionnel. C'est ça qui va faire la différence pour continuer à s'aimer avec leur amour humain. On a Phidéa, mais Phidéa ne suffit pas à nous comprendre. Le Phidéa de l'autre n'arrivera jamais à satisfaire nos besoins intérieurs, le besoin de notre âme. On a besoin de cet amour inconditionnel. D'un Dieu qui nous aime comme nous sommes. D'un Dieu qui ne nous juge pas. D'un Dieu qui nous a acceptés avant même qu'on lui dise oui. Un Dieu qui nous a aimés le premier. C'est cet amour-là qu'on a besoin. Et c'est un amour inconditionnel. Phidéa ne peut pas arriver à ce niveau-là. Phidéa ne peut simplement être bien quand il est satisfait parce que l'autre fait comme il veut. Mais sinon, on a besoin d'une autre source d'amour. On a besoin d'agapé. Quand c'est agapé qui dirige ma vie, la priorité n'est plus ma satisfaction, mais c'est celle de l'autre. Il y a une mort à soi-même dans le succès de notre mariage. Le mariage basé sur agapé va nourrir, entretenir les sentiments, les émotions agréables et va entraîner les deux conjoint sur ce chemin de bonheur qui est tracé par Dieu. Une autre définition de l'amour, pour comprendre un petit peu cet amour agapé, c'est l'amour est un effort constant et persistant de ma part. Vous voyez, on a la persévérance qu'on retrouve dans la Bible. La persévérance, indispensable au mariage. Un effort constant, pas un effort de temps en temps. Un effort constant, rendu possible par agapé. Rendu possible par notre communion avec Dieu. Par la puissance de celui qui agit en nous. Persistant de ma part, afin de créer pour mon conjoint le contexte propice pour qu'il devienne ce que Dieu veut qu'il soit, c'est-à-dire une personne épanouie. Là, c'est Dieu qui se sert de nous dans le mariage. Il se sert de nous toujours dans une vision spirituelle, de créer le contexte propice pour que l'autre s'épanouisse spirituellement. Le comprendre, ne pas juger, le valoriser. Parce que, au bout de quelques temps, le sport de chaque couple, et sans s'en rendre compte, hein, c'est que dans les premières phases, l'autre avait toutes les qualités inimaginables, mais quand on bascule dans une troisième phase et où on ne s'est pas donné à l'autre véritablement, ben l'autre, il n'a plus que des défauts. En tout cas, c'est ce qu'il entend. Tu es comme ci, tu es comme ça, tatati, titata. Et c'est que de la dévalorisation. Et c'est pas mettre l'autre dans un contexte propice pour qu'il s'épanouisse. C'est le développement de la notion de serviteur dans le cœur du chrétien qui devient petit à petit disciple. Nous nous mettons au service de l'autre. Et c'est mutuel. Je fais du mieux que je peux dans ce que je peux apporter à l'autre. Et l'autre fait du mieux qu'elle peut pour venir satisfaire des besoins. Il y a un échange mutuel, il y a un plaisir à être ensemble et à se donner à l'autre. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et dans cet échange-là, l'autre voit que ben, l'autre fait le maximum pour lui. Il ressent cet amour-là, il voit que ce n'est pas un amour égoïste, c'est un amour qui se donne, c'est un amour qui révèle le serviteur. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. On touche encore un peu plus profondément à la notion de disciple. Le disciple qui suit son maître. Le disciple qui est serviteur, comme son maître a été serviteur. On est loin des notions du mariage comme on peut le voir aujourd'hui. Et c'est comme ça que Dieu l'a voulu. Un mariage où les deux sont serviteurs l'un pour l'autre. Plus que des émotions, c'est un investissement. L'amour dans le mariage est aussi un investissement de ma part. Et comment concrètement ça va se traduire? Eh bien, je vais faire mon maximum pour qu'il ou elle se sente aimé. Et concrètement, ben, on peut se poser ces questions-là pour aller plus loin dans la satisfaction de l'autre. Qu'est-ce que je peux faire pour que mon conjoint soit encore mieux avec moi? Ma façon de lui parler, ma douceur, mon comportement. Comment je valorise l'autre? Comment je cherche à répondre à ses besoins, à ses attentes? Comment je sécurise l'autre? Tout ça, c'est des questions qu'on peut se poser pour aller plus loin dans la bonification de notre mariage. Vous voyez, on est loin de la guéguerre. On est loin de se dévaloriser. On est loin de jeter à la figure de l'autre tout ce qui ne va pas. C'est un autre état d'esprit. Les deux font le maximum pour que l'autre soit de plus en plus heureux. Quel mariage! Quel mariage! Dieu ne s'est pas trompé. Il nous offre un mariage extraordinaire si on rentre dans ce qu'il a prévu pour chacun de nous. Le mariage voulu par Dieu n'a pas été créé seulement pour la satisfaction des besoins naturels, mais il rentre dans un processus spirituel. Il participe à ma croissance spirituelle en développant le fruit de l'esprit, c'est-à-dire l'amour de Dieu en moi, qui me permet de mieux en mieux de supporter, de comprendre, de répondre aux besoins de l'autre. C'est une croissance spirituelle. Petit à petit, on s'aperçoit qu'on est de mieux en mieux avec l'autre, on comprend mieux l'autre. Il y a des choses que Dieu a fait en nous, un travail que sans Dieu, on n'aurait pas pu faire. Et qui va rendre l'autre heureux. Et c'est vice-versa, c'est mutuel. Regardons la dernière définition. de l'amour dans le mariage, et c'est Scott Peck qui le dit, c'est un psychiatre chrétien. C'est le don de soi, visant l'évolution et la croissance spirituelle de l'autre. L'amour n'est pas tant le fait des émotions que celui de la volonté. La personne qui aime vraiment a décidé d'aimer vraiment, bien que les émotions ne soient pas toujours présentes. Le don de soi à l'autre par une décision de notre volonté. Le mariage, cette relation intime que Dieu a voulu, il est au summum quand nous avons saisi que c'est en se donnant mutuellement, l'un à l'autre, entièrement, que nous sommes au meilleur de nous-mêmes. Regarde, quand on réalise ce que Dieu veut nous faire comprendre, c'est tout le contraire de l'égoïsme. C'est tout le contraire de me satisfaire moi d'abord. Non, tu seras satisfait par l'autre. Et toi, tu satisferas l'autre. C'est un échange mutuel. C'est comme ça que ça fonctionne. Si on n'est pas prêt à faire ça, alors on n'est pas engagé dans un vrai mariage. C'est dans cette générosité mutuelle que le mariage prend toute sa dimension. Nous retrouvons d'ailleurs ici, regardez bien, une dimension biblique et un parallèle avec l'Église. Je ne me sers pas de l'Église, je sers l'Église. De la même manière, je ne me sers pas de mon mariage, je sers mon mariage. Ou encore, je ne me sers pas de mon conjoint, je sers mon conjoint. Amen. En conclusion, l'homme quittera son père et sa femme, et sa mère, pardon, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Pour certains, c'est pratiquement impossible comment les deux cœurs peuvent se rassembler. Notre mariage, c'est comme un puzzle. Il est perpétuellement en construction. Mais à la vie, vous voyez, un puzzle, c'est plein de petites pièces, et en réalité, eh ben, moi, ben Bertrand, c'est un puzzle, et Erland, c'est un puzzle. Mais en réalité, au départ, le puzzle, il ne rentre pas l'un dans l'autre. Les pièces, ils ne sont pas ajustées. Tu vas dans le magasin, tu achètes le puzzle, tu as le plan, et puis tu fais ton puzzle. Ça, c'est facile. Mais dans la réalité, pour que les cœurs se rassemblent et deviennent comme un seul puzzle, eh ben en réalité, c'est Dieu qui va usiner les pièces. C'est Dieu qui va faire en sorte que là où c'était dur pour toi, là où c'était, tu vois, c'était piquant là, ton affaire, là, mais Dieu l'a arrondi. Et regarde maintenant comment ça s'intègre bien dans l'autre. Voyez, le travail, c'est Dieu qui le fait à travers nous. Voyez. À la différence d'un puzzle qu'on achète dans le commerce, c'est Dieu qui a le dessin final. Parce que les pièces sont en cours d'usinage. Et c'est lui qui les façonne à partir de notre obéissance. Vous voyez ? C'est ça la sanctification. On retrouve le parallèle avec la croissance spirituelle. Je grandis au fur et à mesure que je me laisse façonner par le Seigneur. Et c'est l'un et l'autre, petit à petit, le puzzle va ne faire qu'un. De deux puzzles, Dieu va usiner les pièces pour que l'un et l'autre se mélangent. C'est beau, hein ? Et ça, c'est ce que Dieu fait. Donc, c'est pas la peine de forcer. Hein ? Ça sert à rien de forcer. Parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Mais Dieu ne fera rien sans notre adhésion. Nous avons notre part à faire. Et cette part, c'est la mort à nous-mêmes. Et laisser toute la place à Dieu. Par la puissance de celui qui agit en nous. À l'image de Christ qui est mort pour nous tous, en retour de cette preuve d'amour, on est appelé à obéir à nous-mêmes, aux œuvres de notre chair, pour que Dieu continue de nous façonner, d'enlever, d'élaguer ce qu'il y a à élaguer et qu'il transforme jour après jour notre cœur, afin qu'il ne sorte de celui-ci que des bonnes choses. Notre mariage conduit par Dieu participe à notre croissance spirituelle et à cette marche dans la sainteté. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. On se retrouve à faire des choses qu'on n'aurait pas imaginé faire pour l'autre. Et c'est Dieu qui a fait ça en nous. Pour cela, tu as une décision à prendre. Quitter le chemin de l'égoïsme, de l'orgueil, de l'amertume qui s'est accumulée au fil des années à cause des frustrations et du non-pardon. Parce que quelquefois, il y a des choses au fond de nous qu'on n'a pas pardonné à l'autre tellement on s'est senti blessé. Et maintenant, prendre le chemin de l'humilité et de l'obéissance afin de laisser Dieu diriger ta vie et ton mariage. Beaucoup de mariages chrétiens sont mal en point ou ne se développent pas harmonieusement parce que les conjoints ne savent pas s'aimer. Ce n'est pas qu'ils ne s'aiment pas, c'est qu'ils ne savent pas s'aimer. Ils ne se sont pas réellement donnés l'un à l'autre. il fonctionne encore comme sur le modèle de ce monde où l'égoïsme est roi. Ce soir, es-tu prêt à prendre un nouveau départ dans ton mariage? C'est la question qui se pose maintenant. Es-tu prêt à ce que tu as entendu ce soir, à changer d'attitude et vraiment à rentrer dans ce que Dieu a prévu pour toi? Je t'appelle à te repentir, à pardonner à l'autre et à demander pardon à ton époux, à ton épouse par rapport à ce que tu as entendu ce soir, ce que Dieu a mis dans ton cœur. Pour que ton mariage devienne un mariage à la gloire de Dieu et que tu trouves véritablement le bonheur dans cette alliance voulue par Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut laisser agir le Saint-Esprit quelques minutes, se recueillir, réaliser tout ce qu'on a entendu ce soir, et surtout ce que Dieu a mis dans notre cœur, qu'on a envie de changer. Peut-être qu'à partir de ce soir, il y a des choses qu'on va remettre à leur place, qu'on va peut-être demander pardon, et qu'on va essayer d'avancer autrement dans le mariage pour ne pas qu'il se casse la figure ou pour ne pas qu'il devienne un mariage de cohabitation. Que nos rêves qu'on avait quand on s'est rencontrés, ce ne soient pas des rêves qui sont morts, mais au contraire, que Dieu peut ressusciter ces rêves-là. On va baisser la tête et on va prier un moment. On va laisser le Saint-Esprit nous parler. Parce que je vous le dis encore une fois, aucun mariage n'est foutu avec le Seigneur. Tout est possible avec Dieu. C'est une question de volonté, c'est une question de décision. Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que tu nous montres le mariage comme toi tu l'as prévu, Seigneur. Le mariage biblique. Le mariage qui fonctionne quand tu es là, la corde à trois fils qui ne se rompt pas facilement. Ce soir, Seigneur, je place tous mes frères et sœurs, Seigneur, entre tes mains. Visite-les maintenant. Visite-les à l'instant même, Seigneur. Et vois ce qu'il y a à changer. Vois ce qu'il y a à modifier comme comportement. Seigneur, je compte sur ta puissance. Je compte sur ta grâce aussi, Seigneur. Je compte sur ta puissance de persuasion dans les cœurs, de changer les cœurs, de transformer les cœurs, Seigneur. Pour que chaque mariage chrétien devienne le mariage biblique comme tu l'as voulu, Seigneur. Afin que là, à travers le mariage, Seigneur, eh ben, tu sois glorifié. Que à travers notre croissance spirituelle qui vient dans notre mariage, qui vient nous façonner, qui vient nous travailler, qui vient élaguer toutes ces choses qui doivent être enlevées, qu'à travers tout ça, nous puissions grandir et devenir tes disciples encore un peu plus chaque jour. Seigneur, visite chaque cœur ce soir. Traverse les rangées, Seigneur, et passe dans les cœurs, Seigneur. Seigneur, nous te donnons notre vie ce soir. Nous voulons consacrer notre vie, Seigneur, à ta gloire, Seigneur. Et ça commence par notre mariage. Seigneur, peut-être que jusqu'à maintenant, nous n'avons pas bien compris ce qu'était le mariage, puisque nous sommes rentrés dans le mariage comme nous sommes rentrés dans le mariage du monde. Et Seigneur, à partir de ce soir, je veux prendre une décision. Je veux que mon mariage soit à ta gloire. Et qu'à travers tous ces enseignements qui vont suivre, ce mois de la famille, ce mois du mariage, Seigneur, que tu puisses m'enseigner, que tu puisses me faire comprendre ce qui doit changer avec mon époux, avec mon épouse. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Tout seul, c'est impossible. Et avec toi, tout est possible, Seigneur. Aide-moi par ton esprit, aide-moi par ton amour, aide-moi à comprendre tout ça et à mettre en application. Que je ne laisse pas partir mon mariage vers une cohabitation. Mais au contraire, mon mariage soit vraiment une réussite pour ta gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour le travail que tu fais dans les cœurs, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Agis maintenant, Seigneur. Agis, Seigneur, maintenant. Que nos enfants puissent voir le mariage comme toi tu l'as prévu, Seigneur. Ah, j'ai besoin de toi, Seigneur, dans mon mariage. Besoin dans ma vie, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur. Om Gadol Shalom Shalom. Tu changes les cœurs encore ce soir, Seigneur. Tu visites les cœurs. Tu agis puissamment, Seigneur. Que ce ne soit pas seulement un enseignement ce soir, mais que ce soit ta parole qui nous percute, que ce soit ta parole qui touche nos cœurs, qu'il y ait des décisions de prix avec toi, Seigneur. Qu'il y ait du changement dans nos vies, Seigneur. C'est ce qu'on a besoin, Seigneur, d'être transformé, d'être changé, d'être façonné comme toi tu le veux, Seigneur. Et pas comme moi, pas comme nous, nous le voulons, mais comme toi tu le veux. Aide-nous à être obéissants. Aide-nous à abandonner notre vie. Seigneur, aide-nous à mourir à nous-mêmes, Seigneur, et à revêtir cet amour agapé, cet amour que mon époux, mon épouse a besoin. Seigneur, remplis-moi d'humilité, Seigneur. Remplis-moi d'humilité. Et fais-moi comprendre, Seigneur, les choses qui doivent changer dans le nom puissant de Jésus. Amen.